Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue, bonjour à tous et bonjour à tous, oui c'est ça, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes, c'est incroyable, le mercredi 6 octobre, il est 8h30, le poteau des potards à la technique Corto, salut.
Salut Ben, bonjour à tout le monde, j'ai pas compris ta petite intro là.
Non mais en fait, avec un petit problème de clé ce matin, si tu veux, j'ai pas eu le temps de trouver mieux, du coup j'ai pris les deux mots qui sonnaient en haut. Et voilà, il y avait poteau et corto. Et voilà, j'ai mis un mot en art.
Ah, le poteau des potards.
Ouais, le poteau des potards, ouais. Voilà, le copain des boutons, quoi. Voilà. Au programme de cette matinale qui commence de feu de Dieu ce matin, on est à fond. Il est avec nous au plateau, Roméo, bonjour.
Bonjour à vous.
Roméo, tu viens de t'installer dans le coin, tu es guitariste et tu voudrais... Enfin, et d'ailleurs, tu donnes des cours de guitare ici à Florac. On en parle avec toi dans un instant et puis tu as pris ta gratte et c'est vraiment trop cool puisque tu nous joueras un live tout à l'heure. Tu nous joueras quoi ?
Je vais vous jouer un morceau de mon dernier album qui s'appelle In the Air et mon album s'appelle Vivre l'horizon.
Et on écoutera juste après l'édito un premier de tes morceaux, histoire de régler un tout petit peu et de se remettre dans l'ordre. En deuxième partie d'émission, la suite du reportage sur l'inauguration du site de Rochefort. Aujourd'hui, on parle de sécurité avec le grimpe, entre autres. Et pourquoi la deuxième partie ? Eh bien, parce que Vincent nous a ramené 4 heures de son. Vincent, je te remercie du fond du cœur. Il y aura de la musique comme d'hab et aujourd'hui un live, et ça c'est trop cool, mais on commence par l'édito, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Marseille, je sais pas si vous avez vu les images. Sur la plage abandonnée, coquillages et gros déchets. Et ouais, mardi matin, des paquets informes de détritus ballottés par les vagues ou vomis sur le sable. C'était la vision des plages de Marseille. Après les pluies torrentielles qui se sont déversées lundi, la catastrophe annoncée s'est produite. Les ordures qui n'étaient plus ramassées depuis une dizaine de jours à la suite d'une grève des éboueurs ont été emportées en aval, cap sur la Méditerranée. Les éboueurs avaient prévenu, que ferait-on sans eux ? Si encore le désastre n'était que visuel, mais c'est une catastrophe écologique, c'est ce que martèle Isabelle Poitou qui se démène depuis plus de 20 ans à la tête de l'association Mère Terre. Désormais, tout le monde connaît les dommages irréparables que cela cause sur les écosystèmes. Balancer son mégot ou son sac plastique par terre, ou son masque d'ailleurs, ce n'est plus de la négligence, c'est de la participation à un crime conscient contre l'environnement, enrage-t-elle entre colère et fatigue. Alors, il y a plusieurs associations qui ont prévu dès mercredi, dès aujourd'hui, des opérations de nettoyage qui mobiliseront plus de plusieurs dizaines de bénévoles. Elles en planifient d'autres ce week-end après les 3 jours de Mistral annoncés. D'ailleurs, grâce à ce vent, ça devrait ramener sur les côtes une partie des détritus. C'est ce qu'elles espèrent, ces associations. Ce qui serait pas mal, c'est une prise de conscience générale. Dans la même idée, n'oubliez pas ce dimanche qu'on a rendez-vous à 14h à la station de ski du Blémar pour un grand rassemblement contre le réchauffement climatique. Ah, ça me fatigue hein, encore un peu tout ça. Tiens, il y a même un micro qui descend tout seul. Décidément, ce matin, tout part en vrille. Mais c'est pas grave, un petit peu de douceur et de poésie. Roméo Blanc est là avec nous. Bleu Indigo, on écoute ça.
Tous les voyages, le Dans ses yeux scintillent des larmes de sel, sur fond de ciel et sur cette terre, un souffle de vie universel. Sur son front le vent dans l'air à peine, voile vivant l'alter ego. Son allure est celle d'une étincelle, au crépuscule oui, le indigo. Bleu, le indigo, porté par tous les voyages. Bleu, le indigo, murmure l'écho de passage. Indigo, 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 indigo.
Bleu Indigo de Roméo qui est avec nous. Merci beaucoup d'être là. Tu es musicien, proche de Gratte. Ce serait réducteur de dire uniquement guitariste puisqu'on vient de t'entendre chanter. Dis-moi, Roméo, la première question est piège. Quel est ton premier souvenir de guitare vu, entendu?
Mon premier souvenir de guitare, je crois que c'est un souvenir de Bill Haley. C'est peut-être un de mes premiers CD. C'est un premier, c'était un premier morceau de rock'n'roll, quoi. C'est le riff de rock'n'roll, quoi, que j'ai en tête, là, qui me vient tout de suite ce matin.
Alors, justement, c'est pour ça que tu as choisi la gratte comme instrument?
La musique, c'est une histoire de famille. Donc, mon père était musicien, il était batteur il y a pas mal d'années. Et puis, lui aussi, il joue pas mal d'instruments, il jouait de la guitare et c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. Je joue aussi un petit peu de basse, un petit peu de batterie et voilà, des instruments à cordes. Ouais, c'est vrai que c'est mes instruments de prédilection.
T'as anticipé ma deuxième question, à savoir si tu as pris toi-même des cours, mais ton père t'a appris, mais après, est-ce que t'as bougé, je sais pas, en école de musique, conservatoire ou autre?
Voilà, je suis un musicien plutôt autodidacte. Effectivement, j'ai d'abord appris avec mon père et puis ensuite en rencontrant d'autres musiciens et en apprenant dans des sur internet grâce à des partitions et puis voilà, c'est un apprentissage autodidacte.
Ah, internet, oh joie. Non, en fait, je te pose cette question parce que je suis un petit peu guitariste et je me rappelle pas comment j'ai appris. Alors, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour moi de faire apprendre la guitare. Comment tu t'y prends?
Alors moi, mon apprentissage, donc quand je suis avec un élève, mon but c'est de lui donner envie de continuer à jouer de la guitare. Donc ça passe par un apprentissage oral principalement. Donc je lui apprends à lire des tablatures, qui est une écriture très très simple pour apprendre la guitare. Et puis petit à petit, s'il a envie d'apprendre le solfège, eh bien je peux lui apprendre un petit peu de solfège, des exercices rythmiques, etc. Mais donc ça va passer par un apprentissage de morceaux que je vais proposer à mon élève. C'est souvent une discussion, alors même avec des adolescents ou des adultes, ça va être une discussion, quelles sont les attentes de l'élève et qu'est-ce qu'ils ont envie de jouer, est-ce qu'ils ont envie de jouer des solos, est-ce qu'ils ont envie de jouer des chansons, est-ce qu'ils ont envie de s'accompagner. Donc je vais leur proposer des morceaux qui vont leur plaire et qui vont leur donner envie de continuer.
Ouais, surtout se dire que c'est pas grave si ça fait un peu mal au début, ça passe, il y a pas de souci. Quels sont les premiers conseils que tu donnerais à quelqu'un qui commence la gratte ou que tu donnes d'ailleurs?
Les premiers conseils, d'avoir peut-être une guitare. Enfin, après, si on veut jouer de la guitare électrique, on peut avoir une guitare électrique. Mais c'est vrai qu'en général, on commence plutôt avec une guitare classique parce que ça fait moins mal aux doigts. Et puis après, c'est d'être d'essayer d'être à l'écoute, en éveil par rapport à cet instrument, surtout les instruments acoustiques. C'est vraiment quelque chose qu'on sent vibrer contre soi. Et puis d'essayer de jouer régulièrement, vraiment tous les jours, c'est bien, parce que si on joue une fois toutes les trois semaines, on oublie, hein, c'est comme tout. Donc il faut jouer régulièrement, même 30 minutes, ça suffit.
C'est sûr. Quels sont toi tes maîtres en termes, alors tu as parlé de Billy Holiday, c'est sûr, mais en termes de guitaristes qui t'inspirent un peu tous les jours?
Alors des guitaristes qui m'inspirent, il y en a eu plusieurs. Depuis que j'ai commencé à jouer, évidemment il y a tous les guitaristes des années 60, 70. Je peux citer peut-être Jimi Hendrix évidemment, Jimmy Page. Je peux aussi citer donc dans les musiciens plus acoustiques, Leonard Cohen, Neil Young, Paul Simon, Dylan.
Toute la clique des années 60-70.
Après
l'âge d'or de la guitare.
Après, il y a aussi des musiciens plus récents comme Jonathan Wilson que j'adore, qui est aux États-Unis, en Californie, et qui est un peu dans la veine de ces guitaristes-là. Oui.
Et alors cet été, si je ne m'abuse, et si ma mémoire est bonne, ce qui n'est pas toujours le cas, t'as fait un stage avec un monsieur qu'on connaît un peu quand même dans le coin, qui s'appelle Pierce Faccini.
Oui, j'ai eu la chance de participer à un enseignement qu'il donne dans les Cévennes, donc sur une commune du sud des Cévennes qui s'appelle Cross. Depuis plusieurs années, il participe avec la Route de la Voix à un stage de songwriting. Il donne un stage de songwriting, donc de composition et d'écriture de chansons. Et j'ai vraiment eu la chance de participer à ce stage avec une douzaine de participants. Et ça a été vraiment un moment unique, un moment suspendu et Pierce Faccini, c'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup. C'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Je trouve que c'est un très, très grand musicien. Et j'étais vraiment très heureux de participer à ce stage. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça me donne beaucoup d'énergie aussi pour la suite. Et je pense que c'est des personnes, qui sont intéressantes et qui donnent des exemples de vie qu'il faut suivre.
Pierce Faccini qui ressort l'album d'ailleurs, ou qui l'a ressorti, je ne sais pas, mais en tout cas avec un excellent duo avec Ben Harper notamment. Alors est-ce que, si on revient au cours, est-ce que tu connais ces histoires de paliers, c'est-à-dire que pendant tout un temps on n'arrive plus à avancer, et puis tout d'un coup, en fait, sans trop savoir pourquoi, on monte d'un niveau?
Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où on a des déclenchements en soi. En fait, on apprend, par exemple, on apprend un nouveau morceau, ça nous fait découvrir une nouvelle technique. Et puis en fait, c'est parce qu'on l'intériorise, cette technique, c'est parce qu'on arrive à la restituer, on arrive à la rendre vivante, que ça va déclencher en fait en nous quelque chose et qui ensuite va pouvoir réapparaître peut-être quand on va être dans un moment d'improvisation, un moment de création. Donc effectivement, ces paliers, ils sont importants et c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on répète. Il y a beaucoup de répétitions dans l'apprentissage de la musique, dans la musique. Donc il faut répéter, il faut faire tourner ça en soi pour l'intérioriser, pour avoir ces déclenchements, et puis ensuite pour aller vers pour déclencher cette énergie en fait.
On va revenir à ta musique, hein, plus qu'un guitariste, je le disais tout à l'heure, t'es chanteur aussi. Si on parle là au-delà de la guitare, c'est quoi tes sources d'inspiration? T'as un univers assez aérien et assez folk.
Ouais, j'ai un univers assez acoustique, assez folk. En fait, je viens plutôt du rock à la base. Je parlais de mon père tout à l'heure qui m'a transmis sa culture musicale, etc., des années 70. Lui, en fait, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Hamson, qui était un groupe de la scène française à la fin des années 60, et qui était plutôt un groupe de rock psychédélique. Donc je viens un peu de cette musique qui est entre le rock et les premières expérimentations de free rock en fait qu'on appelle le rock psychédélique. Et puis donc au départ je viens plutôt d'une musique assez rock et petit à petit effectivement je me suis orienté vers une musique qui est plus folk rock on va dire avec donc la mise en avant de guitare acoustique. Et effectivement, j'aime bien les musiques un peu planantes, un peu aériennes, parce que ça, tout de suite, ça évoque les paysages, ça évoque les extérieurs. Et donc, je suis assez sensible. Ce que j'essaye de véhiculer, en tout cas, à travers mes chansons, c'est parce que c'est souvent des chansons que je vais composer parfois en extérieur, et ce que j'essaye de véhiculer, c'est ces paysages, c'est ces grands espaces.
Ouais, donc t'écris un peu plus à l'instinct, à l'inspiration de ce que tu vois et de ce qui t'entoure.
Exactement, oui, c'est très important. Je suis souvent en extérieur, ça m'arrive d'écrire souvent aussi en intérieur, mais c'est vrai que quand je suis en extérieur, c'est vraiment une source d'inspiration. Et voilà, c'est en fait les chansons, c'est un peu comme, moi je les vois un petit peu comme des cercles sonores en fait. Elles sont autour de nous et puis il faut juste les capter. C'est vrai que quand on est en extérieur, qu'on est face à des falaises comme on peut avoir par exemple juste au-dessus de nous là à Florac, voilà, on est juste émerveillé et donc on a ces cercles qui arrivent, on essaie d'avoir c'est une ritournelle en fait, et c'est vraiment lié au territoire, c'est vraiment lié à l'endroit où on est. Et voilà, c'est essayer de capter en fait un moment du présent et de le véhiculer dans une chanson.
Deux EP et un album, tous disponibles sur Bandcamp, qui est une plateforme pas mal foutue d'ailleurs sur le net, on en parlait un peu hors antenne, c'est gratos et c'est pour les musiciens indépendants.
Voilà, c'est pour les musiciens indépendants, c'est une plateforme qui permet à tous les musiciens indépendants de vendre leur musique. Donc ça s'appelle Bandcamp donc on peut aussi juste écouter la musique en streaming. Donc par exemple mon album, vous pouvez l'écouter sur cette page Bandcamp, Roméo Blanc, Vivre l'horizon. Donc toutes les chansons peuvent être écoutées en streaming, et on peut également acheter ces chansons comme sur n'importe quelle plateforme de streaming comme Spotify, Deezer, etc. Et c'est vraiment pas mal parce qu'en fait ça passe directement entre les musiciens indépendants et les fans en fait, ou les personnes qui veulent soutenir les artistes. C'est vraiment un moyen de soutenir directement les musiciens indépendants, d'acheter la musique sur une plateforme comme Bandcamp.
Je mets évidemment le lien sur notre site dans un instant. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la création d'un album?
Ce qui est le plus, ça dépend de chaque EP ou chaque album. Je sais que pour le dernier album, ce qui a été dur, ça a été de finaliser, de créer un ensemble un petit peu cohérent de chansons en fait. Là, et sur cet album Vivre l'horizon, il y a 9 chansons. Et donc le plus dur, c'est de réussir à capter une bonne interprétation de la chanson, un bon arrangement. Chaque chanson, en fait, quand on écrit une chanson, on a une vision de la chanson, et puis en fait, au moment de l'arrangement, c'est un peu comme si on l'habillait, c'est un peu comme si on essayait de l'apprivoiser. Et parfois, quand on arrange une chanson, on est déçu en fait de l'arrangement, on est déçu de ce que ça donne. On peut enregistrer dans un super studio et puis en fait, on est déçu de ce que ça donne. Donc, pour moi, le grand défi d'un EP ou d'un album, c'est de réussir en fait à être en cohérence avec la vision qu'on avait de la chanson au tout début, quand on l'a écrite tout seul avec sa guitare et sa voix, et ce que ça donne ensuite avec l'arrangement, avec la dernière touche finale qu'on a sur l'album en fait.
C'est pas un peu le flip quand on arrive en loser de se dire ah tiens, je vais vivre de la musique?
J'essaye d'avoir ce rêve là en fait. Je suis un peu donc en changement de vie aussi, je vais pas vivre que de la musique. J'aimerais aussi cultiver et je pense que j'aurai d'autres activités. Je vois vraiment ma nouvelle vie avec plusieurs activités.
N'empêche que les infos pratiques, tes cours, tu les fais à combien, où? C'est à peu près les deux seules questions que j'ai.
D'accord. pour l'instant, donc les cours se passent à Florac, chez moi. Et c'est 25€ pour une heure de cours. Après, il peut y avoir des cours collectifs si des personnes n'ont pas le budget nécessaire. Ça peut être des cours à 2 ou 3 et voilà, on peut s'arranger. Je vais aussi proposer peut-être pendant les vacances scolaires des stages pour découvrir peut-être. Et puis je peux parler un petit peu plus des stages,
avec plaisir.
En fait, je proposerai 3 types de stages pour des débutants, peut-être pour les adolescents qui ont envie de commencer la guitare. Je proposerai des stages pour apprendre les musiques de films comme Pirates des Caraïbes ou encore des musiques d'Ennio Morricone, musique de western. Je proposerai un stage pour les solistes, les guitaristes un peu plus confirmés, pour étudier un peu les styles de Jimi Hendrix, Jimmy Page ou Mark Knopfler. Et puis un stage de finger picking peut-être pour les personnes qui sont plus dans la guitare acoustique, qui ont envie d'apprendre des morceaux de Leonard Cohen, Neil Young ou Paul Simon.
Je l'avais tout à l'heure, je la rate à chaque fois. Il y a un troisième Jimmy qui est culte. Il y a Jimmy Hendrix, Jimmy Page et Jiminy Cricket qui s'est mis à la guitare. Passons à la suite. Oui, c'est quoi ton regard un peu sur ce qui s'est passé l'année dernière par rapport à la culture, par rapport à la musique, un peu sur cette année et demie qu'on vient de passer un tout petit peu bizarre, et surtout aussi ce qui s'est passé sur Internet, peut-être la création.
Je pense que pour la musique, pour la culture en général, ce qui s'est passé l'année dernière, ça a été un grand choc, et que donc tous les artistes peut-être percevaient ce qui allait arriver avant ça, et ça a été un grand choc. Je pense qu'il y a des tas d'artistes qui ont pu continuer quand même grâce au soutien, des aides, etc. En tout cas pour moi ça a été une période difficile aussi, parce que moi je vivais de mes cours de guitare, et du coup ça a mis un grand stop à tout ça. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire.
Je pense que beaucoup de gens l'ont subi. T'as des créations, des concerts en vue là en Lozère ou pas encore?
Non, j'ai pas trop de concerts en Lozère. J'ai un concert de prévu à Paris normalement. Ce sera à la Dame de Canton le 15 décembre. Mais bon, à confirmer.
Et d'ici là, qu'on aille à Paris.
Oui, voilà, c'est ça. Non, j'ai rien en Lozère.
Le bout du monde, tu as ta gratte, tu peux la prendre. Si on veut te contacter, ton numéro, c'est 06 87 72 99 98. Je mettrai ton mail, puisque tu me le fileras tout à l'heure. Ou sur Bandcamp, c'est Roméo Blanc, B-L-A-N-C, tout simplement. Qu'est-ce que tu nous joues?
Alors, je vais vous jouer un morceau qui s'appelle In the Air et qui est sur mon dernier album, Vivre l'horizon.
Roméo Blanc sur Bartas.
Slowly in the air, slowly in the sea, you're diving into your mind to feel alright, to feel free. In the air or in the wind, you can hear freedom. Slowly in the haze, the mystic in the lake, you're listening to the bird song to feel alright, to feel free. In the air or in the wind, you can hear freedom. Oh, my soul is still alive forever long. Oh, my soul is still alive forever long. Slowly in the air, slowly in the sea, you're diving into your mind to feel alright, to feel free. In the air or in the wind, you can hear freedom. Feel freedom. Feel freedom. Feel freedom. Feel freedom. Slowly
Slowly in the sea, you're diving into your mind.
Merci beaucoup, bravo!
Merci.
Roméo Blanc sur Bandcamp, Roméo comme Roméo, Blanc comme Blanc, tout simplement, la douceur et la poésie ce matin, ça fait du bien, et bravo, parce que c'est jamais évident de chanter à 9h du matin.
Ouais.
Et tu utilises une technique qui s'appelle la technique de l'open.
Exactement, ouais, j'utilise les open tuning, donc ce sont des accordages ouverts et qui permettent de découvrir des nouveaux horizons.
En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation, d'avoir
merci
poussé les portes de la radio, et bonne route à toi ici dans notre chère Lozère. Allez, la deuxième partie du reportage consacré à l'inauguration du site de Rochefort qui avait lieu mi-septembre dernier. Et oui, Vincent, je t'embrasse et je te remercie de m'avoir ramené à peu près 4h30 de son. Voilà, je m'amuse bien. En tout cas, ici, on est avec Christophe, l'un des initiateurs du projet et le capitaine du Grimpe de Florac. On parle de sécurité, de slackline, de highline et de saut pendulaire. Waouh!
Voilà, donc je suis avec Christophe Bourilly qui se présente, qui est avec nous sur le sommet du rocher. Salut Christophe.
Bonjour Radio Bartas.
Et je suis aussi accompagné du capitaine Guy Pourchaud.
Bonjour à tous.
Donc capitaine du centre national de formation, le Grimpe, c'est ça hein?
Oui, c'est tout à fait ça, voilà. Donc je m'occupe du centre national de formation Grimpe hein, pour former l'ensemble des spécialistes du secours en milieu périlleux de la montagne pour l'ensemble du territoire national.
Donc le centre est basé à Florac hein.
Exactement, ici en Lozère, sur ce territoire qui nous accueille et puis surtout qui est né ici.
Du coup, c'est important là de rappeler que finalement, à l'initiative du projet, ben, c'est les pratiquants eux-mêmes qui ont commencé à connecter avec le milieu du secours en montagne, c'est bien ça hein?
C'est exactement ça, et ce projet, un des fers de lance de ce projet, ça a été l'aspect sécurité aussi, pour que les pratiquants puissent s'adonner à cette pratique sans prendre de risques. Et il y a eu un travail assez complet, voire très complet, qui a été fait avec le Centre National de Formation du Grimpe et le capitaine Pourchaud, qui est allé jusqu'à mettre des dynamomètres, tensiomètres ou gémètres sur les installations et avoir des données chiffrées pour savoir un petit peu comment le matériel travaillait.
Donc vous êtes allé jusqu'à la prise de mesure sur le pratiquant, je crois, les ancrages, le matériel, c'est bien ça ?
Ben c'est tout à fait ça, hein. L'idée, quand on a un centre national dans son département et qu'on a des gens qui sont passionnés et qui mettent en œuvre des nouvelles pratiques, on va dire, sur le territoire national, il est important pour nous de pouvoir participer en adéquation avec les locaux à trouver des solutions techniques pour la sécurité, puis surtout se dire ben, voilà, comment ça fonctionne tout ça, comment ça réagit ben, quand on saute, quand on tire dessus, quand on met des gens dans cette pratique. Et ben, ce qu'on a fait, c'est ensemble, on a mis justement en place des dispositifs dynamométriques, on a tendu des cordes, on les a laissées longtemps, on a essayé de voir comment elles réagissaient dans le temps, après de multiples sauts, on a essayé de savoir aussi combien de jets allait prendre le pratiquant, s'il était en mesure de sauter correctement, ou si c'était quelqu'un qui était, on va dire, non pratiquant, pour pouvoir assurer déjà la sécurité. Puis ensuite, on a développé, avec Christophe et puis toute l'équipe et les associations qui étaient là, des dispositifs d'auto-secours. Parce que pour nous, ce qui est important, il faut bien le comprendre, c'est déjà que nous, les secours nationaux, ben, on comprenne comment ça fonctionne, cette activité, mais il est important que le pratiquant puisse se porter secours, qu'il fasse de l'auto-secours dans l'attente des secours organisés. Donc c'est ce qu'on a mis en place avec Christophe et tous les collègues, et là, vraiment, c'est vraiment la pointe de tungstène de cette aventure, c'est qu'ils sont en capacité de se porter secours, et nous, on a compris comment ça fonctionne, on sait comment ils s'attachent, et on a mis des abacs aussi en place pour que le spécialiste du milieu périlleux de la montagne, quand il va se présenter sur place, il sache tout de suite que les pratiquants sont des gens qui connaissent, sont des gens qui sont performants et ils peuvent donc s'attacher sur leur matériel et assurer le secours et la continuité.
Donc là, en fait, le bassin de Florac, ça a été un laboratoire de pointe sur la recherche, développement et l'innovation pour tout ce que vous venez de nous exploser là.
Bah oui, tout à fait, mais en fait, c'est le cœur du centre national, hein, parce que c'est notre travail que faire de l'ingénierie, de l'étude, hein, de l'expertise. Aujourd'hui, on l'a fait donc pour les highlines aussi, hein, voilà, pour que le pratiquant puisse se porter auto-secours, hein, faire de l'auto-secours, et puis nous, derrière, pratiquer avec des moyens héliportés, etc. Mais le centre national, c'est ça, c'est de la recherche, de l'étude, pour l'ensemble du territoire. Donc là, ben, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a des sites incroyables, on a des gens qui font de la pratique, qui amènent des nouveautés sur le territoire. Aujourd'hui, c'était pas réglementé, c'était compliqué. Et on donne une crédibilité, Christophe avec toute son équipe donne une crédibilité à cette discipline, à tous ceux qui pratiquent cette discipline sur le territoire national. Et nous, pour les secours, ben, c'est sécurisant et en même temps, ben, ça nous permet de se dire, ben, demain si on doit intervenir, on va pas arriver comme ça en se disant, ben, flûte, je sais pas comment intervenir, hein, je suis pas perdu, voilà.
Super. Du coup, Christophe, le parcours du combattant, tu peux revenir un peu dessus. Tu as été celui qui a été investi dans toute la durée du projet. C'est vraiment extraordinaire là, ce que vient de nous expliquer le capitaine, le processus poussé dans le moindre détail, les mesures et les documents qui ont aussi fourni les preuves hein, qu'il y avait une ingénierie, une expertise vraiment qui a été déployée autour de Florac sur ces activités-là.
Oui, le parcours du combattant, effectivement, ça a duré, on va dire, presque 3 ans. Pour un projet comme ça, c'est presque normal. On a abouti grâce au partenariat qui a été établi, que ce soit au niveau des autorités locales, au niveau des services, que ce soit le parc national, que ce soit le GREM, que ce soit, j'en oublie certainement, les forces de l'ordre. Et puis la technicité qu'évoquait le capitaine Pourchaud tout à l'heure, c'est cette ensemble d'équipes qui a fait la richesse de la chose. Donc moi certes j'étais le local du site, c'était plus facile pour faire un peu le lien, mais toutes les techniques elles ont été apportées par Slacklot et Lingrop aussi.
On ira à leur rencontre, mais du coup toi en tant que pratiquant tu as un spot à la maison, tu l'as développé, il est super bien verrouillé au niveau de l'accès et je pense que là les premiers échanges que j'ai eu avec eux ils sont vraiment ravi de l'aboutissement de ce projet-là.
Ben, a priori, oui, j'ai eu les mêmes échos, donc même pour les pratiquants qui ne connaissaient pas le spot et qui viennent pour la première fois pour l'inauguration, sont complètement enchantés. Et je crois que tout le monde est content aujourd'hui, tous les gens qui ont contribué, chacun à sa manière.
Et c'est vrai que finalement, que ce soit pour le Centre National, qui rayonne déjà, par définition, sur les activités plutôt en milieu vertical, vous dites milieu périlleux, mais pour nous, on voit bien que la verticalité, aussi chez nous, c'est une ressource, finalement, que ce soit pour le Centre National, que ce soit pour la tribu de pratiquants, aujourd'hui c'est Florac qui est sous le feu des projecteurs.
Ben ouais, ça fait plaisir. Une petite commune comme Florac, un petit département comme la Lozère, qui peut s'enorgueillir maintenant d'avoir un tel spot, d'avoir été novateur dans ce domaine sportif. Faut quand même savoir que c'est pas des pratiques que le tout un chacun peut faire comme ça et s'improviser à faire du saut pendulaire et de la highline. La highline c'est on va dire du sport qui commence à être du sport de très haut niveau. Beaucoup d'entraînement, le saut pendulaire c'est beaucoup de techniques, de cordes, de nœuds, etc. Donc vive la Lozère et vive Florac.
Du coup, on peut peut-être quand même parler de la procédure d'accès au site, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur « Ah ouais, moi aussi je veux sauter, comment on fait pour aller sur le Rochefort ?» Comment ça se passe concrètement ?
Alors concrètement, déjà, il est hors de question que ce site devienne un site à vocation commerciale, parce que ce n'était pas l'enjeu du tout. Ça se veut être un site où les gens vont respecter l'environnement. Après, ce n'est pas non plus un site où on peut dire « Bon, mais je viens, je paye, je saute » et c'est fini, parce que dans la technique de saut, il y a ce qu'on appelle après le retour au sol, c'est-à-dire qu'une fois pendu au bout de la corde, il faut quand même être autonome en rappel, puisqu'on descend jusqu'au sol avec un rappel, et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire, surtout après une bonne dose d'adrénaline reçue. Donc ça s'adresse quand même à des gens un petit peu aguerris, autonomes sur corde, etc.
Du coup, là, on est uniquement dans le domaine associatif, être couvert par une licence et avoir formulé la demande d'accès à la commune.
Voilà, les associations qui voudront profiter du site formuleront une demande la procédure est décrite dans la charte de bonne pratique qui a été éditée. Et une simple demande à la mairie avec les informations qui seront sur le formulaire permettra aux pratiquants d'accéder pour utiliser le site pendant un jour, deux jours, trois jours, cinq jours.
On parlait de formation avec le capitaine et je crois qu'au sein de l'équipe, pour vous, on parle souvent des équipes, mais il y avait aussi la volonté d'accueillir d'autres pratiquants et de les former pour que les bonnes pratiques sur le site et ailleurs. Il y a une notion dans le milieu de pouvoir autonomiser les pratiquants pour qu'ils puissent évoluer en toute sécurité, hein, le capitaine nous en parlait. C'est aussi ça l'histoire du site du Rochefort, non ?
Ben, tout à fait, aujourd'hui on a une équipe de highliners lozériennes qui vient de se créer, qui nous a demandé s'ils pouvaient être présents. pour regarder un petit peu comment les lignes ont été mises en place, pour discuter avec les autres pratiquants. C'est des sports qui, dans lesquels on s'initie au fur et à mesure en rencontrant des gens, et en général on ne va pas dans ces activités-là tout seul parce qu'on a décidé de le faire.
Donc on est dans l'accueil d'experts extérieurs qui viennent former les locaux pour développer les bonnes pratiques sur notre territoire.
Bah pour nous aussi, hein, parce que l'avantage qu'on a, c'est que maintenant, on a un site avec de la highline et puis du rope jump. Ce qui est intéressant pour les secours nationaux, c'est de pouvoir s'entraîner ici, lorsque ces associations travaillent, leur prendre un petit peu de temps pour qu'on puisse faire découvrir à nos spécialistes français comment travailler, intervenir sur ce genre d'activité. Donc ça, c'est absolument extraordinaire.
Fantastique, merci à vous deux, messieurs.
Merci à vous, à bientôt.
À très bientôt sur le caillou.
Merci et à bientôt.
Et me voici toujours sur le site du Rochefort avec monsieur Chevènement, le directeur adjoint du parc national des Cévennes. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous exposer la position, l'engagement du parc national des Cévennes sur la mise en place des activités de pleine nature comme on a pu voir aujourd'hui sur le site du Rochefort, qui en est un exemple assez, assez fort. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre retour sur ce dispositif ?
Effectivement, c'est une des missions du Parc National des Cévennes, d'essayer d'encourager la pratique de sport de pleine nature et de veiller à ce qu'effectivement ces activités-là puissent se faire d'une part dans un cadre magnifique, mais aussi avec toutes les règles de sécurité possibles, et puis aussi de veiller aussi à ce que ça puisse se faire en complète cohérence avec la préservation des paysages, de l'environnement et des espèces aussi si exceptionnelles qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire.
C'est vrai que là, c'est un dossier, on l'a dit, hein, c'est beaucoup les pratiquants qui sont venus toquer à la porte des institutions, et il y avait ce souci aussi pour eux. Donc au-delà, on a beaucoup parlé d'accès au foncier, de régularisation de la pratique, mais il y avait aussi l'envie pour eux d'être vraiment dans le respect des milieux naturels, des espèces.
Oui, et c'est aussi ça qui est quand même très, très intéressant dans ce type de pratique, parce qu'on est sur un site qui est quand même sauvage, et c'est vrai que ça nécessite effectivement une prise en compte de la part des pratiquants importante, et c'est effectivement de par ce respect, cette rigueur, qu'on va pouvoir développer ce type d'activité et montrer que ça peut se faire dans parfaite harmonie avec la nature et la préservation des enjeux collectifs.
Et voilà, c'est vrai que du coup, pour le groupe de travail, le parc a permis de... Et justement, voilà, on a un vautour qui survole le site, qui survole par-dessus les eyeliners et Damien Armand qui prépare à faire son saut pendulaire. Et je revenais du coup à l'implication du parc, hein, sur l'accès à la piste, hein, qui traverse le cœur. Donc il y a une demande d'accès pour lorsqu'il y a beaucoup de matériel à déplacer, pour que les pratiquants puissent uniquement déposer le matériel, et ensuite pour la pratique, ils font les allers-retours tour à pied. Et on a eu aussi plus en amont l'expertise naturaliste avec un zonage d'enjeux environnementaux sur le secteur pour pouvoir valider la poursuite du projet.
Voilà, c'est ça, c'est effectivement l'intérêt dès le début de travailler en collaboration pour essayer d'évaluer quels sont les enjeux et puis prendre en compte effectivement les sites de nidification, d'espèces protégées, et s'assurer qu'effectivement ça peut se faire sans inconvénients et sans difficultés avec ces enjeux-là aussi.
Parfait, merci beaucoup. Mais donc comme ça, les pratiquants pourront évoluer en harmonie, en étant serein par rapport au respect de la faune et de la flore. Monsieur Portalier, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, on vient d'assister, vous êtes un des propriétaires fonciers, hein, du site.
Ouais.
On vient d'assister au saut de Damien Armand.
Ouais, qu'on félicite déjà, quand je le verrai, je lui répéterai. Il n'a pas hésité. Super, super, super.
Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter qu'on puisse pratiquer ces activités sur votre propriété privée ?
Je pense que ça se situe d'abord à deux niveaux. C'était déjà actif, donc actif sans structure administrative et surtout de responsabilité, ce qui posait des questions sur la responsabilité des propriétaires en cas d'accident, où on se situait nous. Donc l'intérêt de l'affaire, ça a été de créer une convention à laquelle sur laquelle on a pas mal discuté tous les deux. Et c'est rassurant, c'est cadré, c'est super. Et le deuxième, la deuxième envie, c'était que il y avait des gens qui trouvaient leur plaisir, qui trouvaient un espace nouveau, un truc incroyable en l'air. Bon, c'est pas trop ma partie, moi je suis terrien pour le coup. Et c'était super avec cette convention, autoriser cette pratique sans qu'aucune partie ne soit lésée un jour, en danger de responsabilité un jour. Donc moi je m'en réjouis complètement. En plus ce matin, lorsque je suis arrivé sur le site, c'était un tableau extraordinaire de voir les gens sur les lines, sur fond de brouillard, des sauts qui partaient aussi en fond de brouillard. C'est un spectacle fantastique, quoi. Et donc, en tant que sportif dans l'âme depuis toujours, que des gens s'éclatent et puis trouvent des trucs nouveaux, des sensations nouvelles, c'est génial. Moi, je suis tout à fait satisfait de ce qu'on a pu créer ensemble avec les différents partenaires qui sont intervenus.
Eh bien, merci pour ce beau témoignage très complet. Parce que tous les acteurs ont salué aussi votre confiance et votre engouement pour permettre et soutenir cette pratique sur Florac.
Oui, c'est très intéressant pour le territoire. Les gens qui viennent en plus font pour avoir assisté à la préparation des sauts, c'est quelque chose de méthodique. C'est quelque chose. Il y a carrément un protocole avant de partir. C'est pas les sollicitations qu'on a eues l'année dernière où j'ai eu un organisme, je ne sais pas si je peux le citer, qui proposait de sauter 70 €, et quand je les ai contactés, ils m'ont dit non mais on voit sur vous quand vous arrivez si vous pouvez le faire. Moi ça m'a paru complètement fantasque, et là c'est pro, c'est organisé, c'est sûr.
C'est vrai que là, vous abordez la notion de prestations privées, et tout de suite, par votre souhait et aussi pour le souhait de la collectivité et des pratiquants eux-mêmes, on rappelle, et on en parlait avec Christophe Bourrilli tout à l'heure, que la pratique sur le site est uniquement possible dans le cadre associatif. Donc c'est vrai qu'en plus, on a la chance sur le territoire que si on veut sauter et qu'on n'est pas dans un cadre asso, qu'on n'est pas formé, on peut citer le superbe saut à l'élastique du 107, et on aura naturellement tendance à renvoyer les gens vers cette prestation-là. Et là, non, il y a vraiment cette nécessité d'être encadré, d'adhérer à un club qui est affilié à une fédé pour pouvoir être assuré. Et c'est la condition sine qua non qui a permis de mettre tout le monde autour de la table.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est un bel aboutissement. En tant que Floracois, je me régale. À bientôt alors.
À bientôt, merci à vous.
Le saut à l'élastique du 107, ce n'est pas à Radio Bartas, même si parfois on saute dans le vide. Je vais le réveiller. Merci beaucoup, Corto.
De rien, Ben, un plaisir.
Merci beaucoup à toi, Vincent, qui nous a ramené tous ces sons. J'ai encore un rush de 20 minutes qui sera monté dans les jours à venir. Il y a une photo de dingue, d'ailleurs, sur une highline qui est au-dessus, là-bas, entre les deux rochers du Rochefort. Je vais voir si on peut la voir et la mettre sur notre site. Je vous rappelle que Roméo Blanc, c'est sur Bandcamp. Je mets les liens sur notre site dans un instant. C'est la fin de cette matinale. Il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien. On se quitte avec les Beatles. Corto ne se rappelle pas comment ça va, les Something. Je te propose, Corto, qu'on y aille tout de suite. Allez, bonne journée à toutes et tous. À lundi prochain. Ciao. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Thank you.
me remind.